Vous êtes bien sur France Inter, il est 9h12, l'heure d'Interception. Votre émission de grand reportage consacrée aujourd'hui aux réfugiés climatiques est présentée par Géraldine Allot.
Centre-ville de Dinan ce matin, la rue principale est toujours méconnaissable. Route défoncée, canalisation arrachée, presque rien n'a résisté à la puissance de l'eau.
Voilà, c'est un ruisseau, puis on ne se doute pas que 20 minutes plus tard, ça devient un torrent. On se croirait dans un blockbuster américain.
Ce n'est plus de la science-fiction, mais la réalité du monde d'aujourd'hui. Les événements climatiques extrêmes se multiplient aux quatre coins du globe. Inondations en Belgique et en Allemagne, canicules historiques aux États-Unis et au Canada, incendies en Algérie, en Grèce, en Turquie, en Russie. La période estivale a été marquée par une succession inédite de catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. D'après les experts du GIEC, ces catastrophes vont devenir de plus en plus fréquentes. Leur puissance destructrice va s'amplifier, le nombre de zones touchées aussi. La France n'est pas épargnée.
On a plusieurs aléas climatiques qui rendent vulnérables certains territoires, notamment sur les auprès des littoraux, des petites villes au large du continent, je pense à l'île de Sein ou l'île de Groix. On a aussi des territoires qui sont menacés par la sécheresse.
Le littoral français est de plus en plus fragile, victime de tempêtes hors normes, de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion qui s'accélère. Victime aussi d'une urbanisation galopante qui commence enfin à être remise en cause. 1,5 million de Français sont menacés par la submersion marine. Les pouvoirs publics en sont réduits à sauver ce qui peut l'être.
Il y a plusieurs scénarios possibles, plusieurs choix possibles de gestion. Soit tenter de fixer le trait de côte ou de ralentir le recul. Soit effectivement ne pas agir sur le phénomène en tant que tel et donc décider de déplacer les bâtiments menacés.
Dans ce reportage, nous partirons à la rencontre de ceux qu'on appelle les déplacés climatiques. Ces Français qui ont dû changer de lieu de vie à cause de la montée des eaux, des canicules, des sécheresses et autres événements dramatiques à répétition. Dérèglement climatique quand il faut partir. C'est un reportage de Faustine Calmel et Yann Frécy.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre TGV desservira la gare de Saint-Brieuc.
D'un an, le Lot-et-Garonne, pour venir s'installer ici, à Langueux, près de Saint-Brieuc, en Bretagne, où on arrive sous la pluie.
Bonjour.
Bonjour. Les numéros sont un peu cachés.
Oui, non. Bon, je me suis dit, oh, ils ont peut-être un peu de transat avec le train, ou je sais pas.
Nous voilà.
Allez-y. Est-ce que je vous propose un café ?
Pas de refus.
Oui ? Bon, je vous autorise à enlever vos masques parce que je suis vacciné et dans la résidence, il n'y a jamais rien eu. Voilà.
Oui, peut-être.
Mettez-vous à l'aise. Bon, écoutez, quand je vous prépare le café, je vous suggère, pour passer le temps un petit peu, parce que moi, je trouve intéressant de regarder la bibliothèque des gens quand je vais chez quelqu'un. Alors regardez un petit peu, c'est un moyen de faire connaissance.
Allez, super. Si vous m'autorisez, je regarde.
On apprend beaucoup de choses en regardant la bibliothèque des gens, les poubelles aussi, mais bon.
C'est moins agréable.
Voilà, je m'appelle Yves Martin, j'ai 78 ans, je suis retraité de l'éducation nationale. Je suis, entre guillemets, ce que j'appelle un vieil écolo. J'ai pris ma retraite dans le sud-ouest pour des raisons familiales.
J'ai eu envie de concrétiser un vieux rêve, donc il y a une dizaine d'années, en construisant une maison écologique, passive, très économe, etc., où j'étais évidemment extrêmement bien, sauf que le réchauffement climatique m'a rattrapé et a fini par me pousser dehors, parce que j'ai commencé à souffrir vraiment beaucoup des grosses chaleurs en été, au point qu'il y a l'été d'il y a 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans, j'ai eu 2 épisodes, je dirais, inquiétants pour moi. 2 fois où il faisait très chaud, il y avait un épisode de caniculaire comme ça, et je me suis retrouvé un après-midi sourd pendant plusieurs heures. 2 fois à 1 mois d'intervalle. Alors une fois, je me dis, bon, on laisse passer. 2 fois, dans les mêmes circonstances, ça m'a un peu inquiété. Mon médecin a eu un gros point d'interrogation au-dessus de la tête quand j'en ai parlé, donc pas d'explication, etc. Jusqu'au jour où, un an après, j'ai lu un article quelqu'un qui avait fait 2 AVC parlait de problèmes auditifs avant. Et là, franchement, je me suis dit, il faut s'en aller.
Comment vous avez étudié tout ça, justement, pour trouver le bon endroit pour vous installer ?
Alors, j'avais depuis au moins 40 ans, un livre sur le climat de la France, que j'ai beaucoup feuilleté, beaucoup. Et puis, j'ai aussi trouvé un site sur Internet qui compile les températures dans le monde entier. Il y a 3 ans, par exemple, j'avais relevé les températures sur 3 mois d'été, donc de Casteljaloux où j'habitais, mais aussi de Vannes, de Saint-Brieuc, etc., pour voir, comparer, etc. Et je me suis aperçu cet été-là, par exemple, que à Casteljaloux, sur 90 jours d'été, pendant 45 jours, il avait fait au moins 30. À mon âge, c'est fatigant. Parce que s'il fait au moins 30 ans d'été, il y a des périodes où le ressenti est à 35 ou à 38. Et vous avez des températures nocturnes qui ne descendent pas en dessous de 20. Et donc, on ne se repose plus. Alors, quand c'est 3 jours, ça va. Mais quand c'est répétitif, ça devient embêtant. Il faut s'en aller. Donc, j'ai bien plus pioché les cartes, les courbes de température, j'ai relevé, etc. Et ma conclusion a été qu'il fallait aller en Bretagne, mais sur la côte, parce qu'il n'y a guère que la bande côtière qui est stable sur le plan thermique, c'est-à-dire où il ne fait jamais froid en hiver et il ne fait jamais très chaud en été.
Voilà. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que vous avez redécouvert en venant vivre ici ?
Climatiquement, je me suis trouvé bien. J'ai retrouvé le plaisir de marcher, de sentir à pied ou en vélo l'air frais pendant que je pédale ou que je marche, et de pouvoir rentrer chez moi sans me précipiter sous la douche, retirer tous les vêtements que j'ai sur le dos qui sont trempés de sueur, voilà, parce que c'est pas possible. Ça a été un plaisir intense, voilà, et je le retrouve chaque fois que je retrouve cette situation.
Est-ce que vous avez l'impression d'être un précurseur dans le fait de fuir les grosses chaleurs pour venir vous installer là où il fait meilleur ?
C'est ce qu'on m'a dit, mais je ne le crois pas vraiment, parce que dans la résidence où je suis, je connais au moins 3 personnes de mon âge ou plus âgées qui sont ici pour la même raison, qui ont quitté le sud-est par exemple. Une autre dame qui a, ça fait au moins 5-6 ans, elle qui est plus jeune que moi, qui a quitté Toulouse. Malgré tout, la région n'est plus aussi fraîche qu'elle ne l'était. Les pointes de température exceptionnellement s'approchent de 30, qu'à 28 c'est déjà insupportable. J'ai envie de dire, et ça m'attriste, que je suis très inquiet pour les petits-enfants. Pour moi c'est très inquiétant, voilà. C'est très attristant, c'est très inquiétant. Voilà. C'est un gâchis lamentable.
Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà visibles et c'est tout le bassin méditerranéen qui suffoque. C'est du jamais vu depuis plus de 150 ans.
Le long des routes, les arbres continuent de s'embraser.
Ici, le feu a dévoré plusieurs habitations.
Il ne reste plus rien.
Conséquence de cette chaleur, les incendies ravagent le sud de l'Europe.
Ces canicules que ne supportait plus Yves Martin, elles vont se multiplier dans les années à venir. Ça n'est pas une crainte ou une hypothèse, mais une réalité déjà chiffrée. Nous arrivons à Toulouse, où Météo France et l'INSEE ont mené une étude prospective sur l'exposition des habitants de la région Occitanie aux fortes chaleurs d'ici 2050.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre intercité va arriver en gare de Toulouse-Matabiau. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Prochaine arrêt de Toulouse-Matabiau.
Alors, je suis Rémi Lardelier, chargé d'études à la direction régionale de l'INSEE en Occitanie.
Vous avez participé à une étude sur l'évolution des températures dans la région, ici en Occitanie, dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on constate précisément ?
Ce qu'on constate, c'est que toute la région va être concernée par une hausse des températures. Nous, ce qu'on a retenu comme indicateur dans le cadre de cette étude, c'est l'évolution du nombre de journées qu'on appelle estivales, donc les journées pour lesquelles la température va dépasser les 25 degrés. Et aussi, le deuxième indicateur qu'on retient, c'est le nombre de nuits tropicales, donc quand la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Donc sur ces deux indicateurs, toute la région va connaître une hausse des fréquences de ces fortes chaleurs. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas la survenue d'une journée de forte chaleur qui est gênante, c'est la répétition des fortes chaleurs qui va créer un risque sanitaire. Et en plus, quand c'est accompagné par des nuits pendant lesquelles la température ne descend pas, donc en dessous de 20 degrés, enfin, nos corps ne sont pas habitués, ne vont pas pouvoir récupérer des journées qui étaient déjà chaudes, et donc du coup, ça va fragiliser encore plus les organismes.
Et ce qui ressort de cette étude, c'est à la fois qu'il va faire chaud plus souvent et en même temps dans plus d'endroits.
À l'échelle de la région, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des territoires qui étaient déjà réputés pour être les très chauds en été. Donc on avait le sud du Gard, les environs de Narbonne, de Perpignan, qui connaissaient souvent plus de 80 journées estivales par année, enfin voilà, les plus hautes fréquences de forte chaleur. Et donc sur ces territoires, ça va continuer d'augmenter, il y aura de plus en plus de fortes chaleurs. Et parallèlement, on a une extension sur tout le littoral méditerranéen, en Occitanie en tout cas, et ça va remonter aussi à l'intérieur des terres, dans l'Aude, le long du canal du Midi, plus loin que Carcassonne. Tous ces territoires vont connaître des fréquences de fortes chaleurs semblables à ce qu'on connaissait avant 2005, dans le sud du Gard par exemple.
Combien d'habitants ça va concerner du coup à terme ? Là on est jusqu'en 2050 je crois.
Si le climat de 2005 avait perduré jusqu'en 2017, il y aurait eu 16% de la population qui aurait été exposée à ces fortes chaleurs très fréquentes. Sauf qu'entre-temps, le climat a changé, et du coup, quand on regarde le climat pour les trois décennies à venir, c'est plus 16%, mais c'est 55% de la population d'Occitanie qui sera exposée potentiellement à ces fortes chaleurs très fréquentes, 3 à 4 fois plus. Ouais.
Quel risque ça peut présenter pour ces populations-là ?
En fait, c'est ce qu'on remarque et qu'on a en tête maintenant, c'est depuis la canicule de 2003, ça va être des décès. On observe une surmortalité en période de canicule. Mais il y a aussi tout un certain nombre de patients qui se rendent aux urgences parce qu'ils sont en situation de déshydratation ou de coups de chaleur, de maladies chroniques qui s'aggravent en raison de la chaleur. C'est plus souvent des personnes âgées. Ça peut être aussi des jeunes enfants, des nourrissons, des femmes enceintes. C'est des personnes plus fragiles face à la chaleur.
C'est le premier renseignement de ce rapport. Les températures devraient augmenter d'1,5 degré d'ici 2030. C'est 10 ans plus tôt que ce qui était prévu.
Il existe encore peu de recherches en France sur ce que l'on appelle les réfugiés climatiques ou les migrants environnementaux. Peut-être car ils sont encore peu nombreux. Mais Marine Denis, doctorante, commence à s'y intéresser. On la retrouve chez elle, à Grenoble, au pied des montagnes.
Bonjour, je m'appelle Marine Denis, je suis juriste en droit de l'environnement. Je fais une thèse actuellement en droit international sur la protection des déplacés climatiques.
Vous voulez un verre d'eau, un café, un thé ?
Eh ben, allez,
café,
un
café. Je fais un café, ouais.
Super.
Okay.
Quand on parle des réfugiés climatiques, on a tendance à penser plutôt à des îles du bout du monde qui risqueraient d'être submergées. Est-ce qu'aujourd'hui, cette problématique, elle existe en France, chez nous ?
Oui. Alors elle existe en France, clairement, sur des endroits très différents du territoire. On a plusieurs aléas climatiques qui menacent et qui rendent vulnérables certains territoires, notamment auprès des littoraux, des petites villes au large du continent, je pense à l'île de Sein ou l'île de Groix. On a aussi des territoires qui sont menacés par la sécheresse. Et puis après, il y a aussi des territoires dont on parle assez peu, notamment en Outre-mer, qui nous semblent être à l'autre bout du monde, pour le coup, mais qui en fait sont très vulnérables, très menacés, notamment par la montée du niveau des océans et la raréfaction des ressources naturelles.
Vous étudiez la question des migrants climatiques. Est-ce qu'en France, déjà, on voit cette problématique de migration, de gens qui quittent leur habitation pour aller s'installer ailleurs.
Alors, j'ai pas connaissance de phénomène de migration interne. En fait, très souvent, ce qui rend complexe aussi la quantification, c'est qu'on, la plupart des déplacements pour des raisons climatiques ou environnementales se font à une échelle très locale. Et du coup, c'est très difficile de savoir s'il y a des flux de personnes qui quittent leur région pour aller vers d'autres. Là où, à mon avis, il y aura des choses à observer, c'est dans le milieu de l'agriculture. C'est-à-dire des exploitations agricoles qui ne sont plus reprises après un décès, par exemple, avec des nouveaux agriculteurs qui décident de s'installer peut-être à 200 km plus haut que l'exploitation d'origine, parce que le changement climatique fait que la terre devient beaucoup plus difficile à cultiver, que les récoltes sont moins bonnes, qu'il pleut pas assez, ce genre de choses. Après, il y a la question aussi de quels acteurs peuvent répondre à ces préoccupations. Et là, il y a encore un flou en France. On connaît la responsabilité des pouvoirs publics, mais on a du mal, à mon sens, à mobiliser le secteur assurantiel pour indemniser davantage et prendre davantage en compte ces catastrophes naturelles et ces aléas climatiques.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Obtenir des indemnisations est parfois très difficile quand on est victime d'une catastrophe naturelle. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qu'on appelle Fonds Barnier, a été créé en 1995. Il couvre le risque de submersion marine et d'affaissement de terrain, mais pas l'érosion sableuse, qui est considérée comme un phénomène naturel prévisible. Les habitants de l'immeuble Le Signal, à Soulac-sur-Mer, en Gironde, en ont fait l'amère expérience. Cet immeuble a été construit en 1967, à 200 mètres de la mer. C'est l'époque des Trente Glorieuses, avec une quatrième semaine de congés payés et l'essor du tourisme balnéaire. Au fil des ans, des tempêtes et de la montée des eaux, la mer a grignoté la côte. L'immeuble s'est retrouvé à 10 mètres seulement du bord de l'eau. Nous sommes en 2014, les quelques 70 propriétaires sont sommés d'évacuer les lieux par arrêté préfectoral. Aucune indemnisation n'est prévue. Après 7 ans de combats juridiques et politiques, l'État vient de débloquer une enveloppe de 7 millions d'euros pour le préjudice subi.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Guichet.
Entrez.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Jean-José Guichet et j'ai 87 ans et j'étais président du conseil syndical de cette résidence appelée Le Signal.
Un immeuble qui avait été construit en 67 à Soulac, c'est
oui,
ça
oui, hein, exact.
Et vous avez acheté un appartement 11 ans plus tard. C'était comment? À quoi ça ressemblait?
Il faut savoir qu'à l'époque où ils ont implanté ce signal, c'était une véritable ville nouvelle, hein. Alors, entre autres, il y a eu Lacanau, dont on parle beaucoup. À Soulac, sur le plan de base, c'était 1200 logements qui devaient être construits. La plupart, d'ailleurs, seraient dans la flotte.
Et finalement, c'est 78 appartements, cet immeuble.
Voilà, quand ce moment a été créé.
Je me demandais si vous aviez des photos de cette époque.
Oui, je vais vous les chercher. Je vais vous les chercher. J'aurais dû préparer le dossier, mais... Cette photo, tenez, elle date d'avril 1967. Et moi, mon appartement était là, au premier étage, au coin, là. Voilà.
Et là, votre appartement, il est à alors au moins ici, 200 mètres de la mer.
Ah, il y a plus que ça. Il y a plus que ça.
Il y a une très grosse dune, là, entre ouais, votre immeuble
voilà,
et la mer.
Et c'était hein, une dune avec de l'herbe. Là, ici, c'était des plantations de ya. Mais c'était très, très fourni. Hein. Tout ça... En fait, c'était un champ dunaire et ils l'ont littéralement bousillé à l'époque pour construire les logements.
Vous m'avez dit au téléphone, quand on s'est installé, j'étais au premier étage oui, et je ne voyais pas la mer.
Je ne voyais pas la mer, oui, c'est vrai. Si bien que pour mes gamines qui étaient très jeunes, quand elles partaient à la mer, on les suivait parce qu'on ne les voyait pas. Donc il y avait un rideau de dunes et c'était environ... 250 à 300 mètres.
C'est-à-dire que là, vous avez vu la côte complètement voilà, se transformer en face de chez vous?
Voilà, c'est ça. La question m'est souvent posée par vos consoeurs. Est-ce que la mer monte? Je disais, moi, je ne la vois pas monter, la mer. Par contre, je vois le niveau de la plage baisser.
Qu'est-ce qui s'est passé en 2014?
Ça s'est passé bien avant. Ça s'est passé en 2010, quand il y a eu tout ce qui s'est passé.
Vous voulez dire la tempête avec Xynthia ?
Avec Xynthia, nous, on a énormément souffert en 2010. On a perdu 10 à 15 mètres de côte, à l'aise. On avait l'habitude. Dès qu'une tempête s'annonçait, je partais tout seul à Soulac parce que c'est un spectacle. Je ne suis pas masochiste, mais je crois qu'il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Quand vous voyez vos grandes baies vitrées se gonfler, entre 2010 et 2014, l'équipement avait placé un certain nombre de témoins. Et quand l'eau arrivait au premier témoin, on était averti. Deuxième témoin, troisième témoin, vous partez. Donc en fait, quand l'eau est arrivée au dernier témoin, c'est-à-dire à peu près à 13-14 mètres de la base du signal, on savait qu'on serait obligé de partir. Donc l'évacuation, c'était inéluctable.
Vous gardez quel souvenir de tout ça aujourd'hui ?
C'est peut-être moins à moi de vous le dire, c'était pour mes filles et mes petites filles. Parce que expliquer à des gamines qui avaient à l'époque 20 ans, 25 ans, que c'est terminé, ça passe très mal, je peux vous le dire. Maintenant, vous dire ce qui a été tenté petitement de ramener du sable ou des choses comme ça, je me rappelle de la réflexion de Jean Ducoing, on donne à manger à la mer. Ça voulait tout dire. Ces éléments naturels, vous ne les auriez pas. Mais nous, on aura vécu de plein fouet la période où la mer a repris son droit.
Le signal, cet immeuble, il est souvent considéré aujourd'hui comme un petit peu le symbole de cette érosion côtière. Et vous, finalement, un peu comme les premiers réfugiés climatiques en France.
Je l'avais dit, c'est pas moi qui ai inventé la phrase, mais je l'avais repris, j'ai cité nous sommes les premiers réfugiés climatiques de France. Ça a été un peu, et maintenant c'est reconnu, en fait.
Aucun des copropriétaires du signal que nous avons contacté n'a accepté de revenir à Soulac-sur-Mer avec nous. Tous disent vouloir tourner la page, ne plus avoir affaire avec tout ça. C'est donc sans eux que nous partons à Soulac, 100 km au nord de Bordeaux, à l'embouchure de la Garonne, pour voir à quoi ressemble aujourd'hui l'immeuble Le Signal.
Tournez à droite, boulevard Alsace-Lorraine. Vous êtes arrivé.
Ah ben voilà, c'est assez impressionnant, cette espèce de grand immeuble délabré, avec des graffitis partout, plus aucune baie vitrée. Les baies vitrées dont nous parlait Jean-José Guichet, elles ont disparu depuis longtemps. Il y a une étendue herbeuse devant, quelques zoyas encore. Et puis, allez, aujourd'hui peut-être une trentaine, quarantaine de mètres et la mer. Juste devant. Là, du premier étage, on la voit.
Donc, je suis Frédéric Boudot, je suis le directeur général des services de la communauté de communes Médoc Atlantique.
Là, en fait, on est juste en dessous de l'estuaire.
Exact.
Et vous mesurez l'érosion ici.
C'est-à-dire en fait, oui,
vous savez que la plage recule.
Deux fois par an, on fait passer des équipes qui nous donnent ce qu'on appelle la position du trait de côte. Donc la position du trait de côte, en fait, c'est l'angle entre le front de la dune et la plage. Donc c'est ce que vous voyez, c'est l'espèce de cassure que vous avez en bas de la dune. Et c'est ce positionnement-là qu'on mesure chaque année, sachant qu'on a un autre critère aussi qui nous intéresse, c'est le recul maximum sur un événement, puisqu'on a en moyenne sur le linéaire côtier de Soulac une érosion qui est de l'ordre de 6 mètres par an. Mais elle n'est pas uniforme sur tous les secteurs. On a des secteurs où elle est à zéro, voire positive. Et puis on a des secteurs où on a effectivement des reculs plus importants.
6 mètres par an, quand vous le dites comme ça, franchement, ça paraît énorme.
Oui.
Ça veut dire que ça menace aussi d'autres endroits ?
On a d'autres secteurs où on surveille, puisqu'effectivement, c'est ce que je vous disais, sur des événements de tempête, comme on a connu en 2014. En 2014, il faut bien avoir conscience qu'on a perdu 700 000 mètres cubes de sable sur un hiver, 2013-2014. C'était jamais arrivé. Donc on a quand même des endroits où on a une érosion chronique et qui peut aller jusqu'à 10-15 mètres et qui peut être aggravée selon les secteurs. Donc là, par exemple, le signal, vous êtes sur un secteur aujourd'hui où on a reculé de 25 mètres en 2014, 2013-2014. Ces variations-là sont trop brutales pour qu'on puisse ne pas en tenir compte. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant comme règle, surtout le littoral, en fait, d'identifier les endroits où pourrait y avoir des difficultés et essayer de se réapproprier cette espèce de bande d'aléas de 25 à 30 mètres dans laquelle on peut enlever des enjeux. Donc les enjeux, ça peut être, vous avez un ancien centre de vacances qui a été racheté par la mairie et qui a été enlevé. Donc ça, c'est des choses. On essaie de redonner de la respiration au littoral dans la limite du possible. Alors c'est surtout sur les espaces semi-naturels et dans les zones urbaines comme ce que vous pouvez voir à Soulac. Effectivement, l'idée, c'est plus de capter du sable ou de protéger les zones, on va dire, à enjeux urbains et socio-économiques.
Jusqu'à quand ça vaut le coup, en fait, de réensabler, de protéger, plutôt que de, finalement, envisager un repli stratégique ?
L'évolution du climat, les prévisions du GIEC feront forcément évoluer les paradigmes par rapport à toutes ces questions-là. Mais pour l'instant, je vous dis, on n'en est pas à un bilan qui serait négatif pour ce type d'opération.
Et Frédéric Boudot, donc on est au pied de cet immeuble qui a été déjà en partie désossé, désamianté. C'est quoi son avenir ?
Comme vous le savez, depuis la loi de finances de 2021, il y a une enveloppe de 7 millions d'euros qui a été consacrée pour indemniser les copropriétaires. Donc les opérations d'acquisition sont en cours, les opérations d'indemnisation sont en cours et le but ultime, c'est effectivement de viser la démolition de ce bâtiment et la renaturation du site où nous sommes.
La situation de Soulac au bord de l'estuaire de la Gironde est très particulière, mais d'autres zones sont aussi soumises au même phénomène. C'est ce qu'étudie le groupement d'intérêt public du littoral aquitain, où nous avons rendez-vous avec Camille André.
Donc, je suis Camille André, je suis chargé de mission sur la gestion des risques littoraux au GIP Littoral.
Et, donc, le GIP, c'est le groupement d'intérêt public.
Le groupement d'intérêt public du littoral en Nouvelle-Aquitaine pour organiser des politiques publiques cohérentes à cette échelle régionale sur la question de l'aménagement du littoral.
Donc ça veut dire que vous surveillez le trait de côte de ce littoral de près. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y aura d'autres cas comme celui de l'immeuble du Signal ?
On a estimé qu'il pourrait y avoir, selon différents scénarios, au maximum 5800 logements touchés par l'érosion côtière à l'horizon 2050, donc environ 30 ans. Dans le scénario où on n'entretiendrait pas tous les ouvrages de protection, donc c'est vraiment le chiffre maximal. Et d'un autre côté, si on préservait les protections existantes, les ouvrages sur le littoral qui protègent certains secteurs urbanisés, on réduit ce chiffre à 580 bâtiments menacés pour les 30 prochaines années.
Quand vous dites menacés, ça veut dire qu'il faudra les évacuer, que les gens devront partir ?
Alors, ça veut dire qu'ils vont être atteints par l'érosion si on ne fait rien. Après, il y a plusieurs scénarios possibles, plusieurs choix possibles de gestion. Soit tenter de fixer le trait de côte ou de ralentir le recul, soit effectivement ne pas agir sur le phénomène en tant que tel et donc décider de déplacer les bâtiments menacés.
Ce qu'on appelle le repli stratégique, ça veut dire que finalement on quitte le lieu et on recule dans les terres. C'est quelque chose qu'il faut à terme envisager de manière plus large.
Alors, ça fait partie des solutions. Effectivement, ça va se poser de façon de plus en plus prégnante parce que les aléas littoraux sont déjà très forts aujourd'hui. Et avec les conséquences du changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, les aléas vont s'intensifier, vont devenir plus fréquents, plus brutaux à certains endroits. Et donc, de manière générale, cette réflexion-là, elle va devoir s'élargir et on va devoir y penser de plus en plus souvent.
Mais est-ce que cette idée de reculer finalement, de laisser la place à la mer qui avance, elle fait son chemin ou c'est encore aujourd'hui très difficile à faire accepter ?
Alors, elle fait vraiment son chemin. On va dire, il y a une dizaine d'années, c'était très difficile de parler des sujets. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et qui montre que on ne pourra pas protéger partout le littoral, que en termes de coûts, ça va devenir extrêmement important. Et il faudra choisir des priorités, des secteurs sur lesquels il faudra intervenir d'une façon et d'autres secteurs sur lesquels il faudra accepter le recul. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas une seule solution unique. On ne pourra pas protéger tout le littoral régional ou tout le littoral français, et on ne pourra pas tout reculer non plus. Enfin, on ne pourra pas abandonner complètement le littoral. Donc la solution sera une combinaison et un résultat intermédiaire entre ces deux solutions. Et il faut avoir les outils aujourd'hui pour faire les bons choix au bon endroit et au bon moment.
Il y a la loi climat et résilience qui est en train d'être examinée. Vous en attendez quelque chose sur votre sujet en particulier ?
Ça fait plusieurs années que des lois successives ont été déposées, étudiées sur ce sujet de l'érosion côtière. Les précédentes ne sont pas allées jusqu'au bout. La loi climat et résilience, c'est une nouvelle étape. Et effectivement, il y a des attentes très fortes qui sont exprimées par les territoires. Et maintenant, c'est plus des moyens pour réaliser concrètement ces choix sur le terrain qui sont nécessaires.
Nous clôturons aujourd'hui près de 4 mois de travail sur un texte qui a presque quintuplé de volume et suscité de nombreux et intenses débats,
Sénat,
que ce soit au Parlement ou dans la société civile.
20 juillet 2021.
Depuis le mouvement des Gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, en passant par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons affirmé une ambition environnementale à la hauteur des enjeux, à quelques mois de la COP26, et œuvré dans le sens d'une réconciliation des transitions écologiques, économiques et sociales.
Merci, Madame la rapporteure.
La loi climat et résilience, inspirée du travail de la Convention citoyenne pour le climat, a été adoptée définitivement par le Parlement fin juillet. Elle donne plus d'autonomie aux collectivités locales pour élaborer des stratégies de lutte contre l'érosion côtière. Les communes ont désormais un droit de préemption sur les bâtiments menacés. En montagne aussi, le dérèglement climatique provoque des phénomènes néfastes. Éboulements à répétition à cause de la fonte du permafrost, recul des glaciers.
France Inter, Interception.
Nous prenons maintenant la direction de Saint-Gervais, au pied du Mont Blanc. Le glacier de Tête-Rousse rétrécit au fil des décennies. Or, sous ce glacier se trouve une poche d'eau de 40 000 mètres cubes. Si la pression sur cette poche s'accentue, le glacier pourrait imploser et déferler sur la vallée. Une telle catastrophe s'est déjà produite en 1892 à Saint-Gervais. Il y avait eu à l'époque 175 morts.
Saint-Gervais, c'est une ville de montagne, 5779 habitants. Nous sommes ici entourés par les sommets et les glaciers. C'est d'ailleurs le point de départ de nombreux alpinistes qui veulent gravir le Mont Blanc. Nous commençons notre découverte ici, tout en bas de la commune, dans le quartier du Fayet, au bord du Bonan, un ruisseau affluent de l'Arve.
Bonjour, Gabriel Grandjac, donc un peu historien de profession, dada d'histoire locale, donc j'ai animé un club d'histoire locale et une revue pendant 40 ans, la revue d'histoire locale Coutère, ici. Actuellement, je suis adjoint à la culture et au patrimoine depuis 2008.
On est ici, Gabriel Grandjac, sur le site des thermes de Saint-Gervais-les-Bains. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 1892? Vous pouvez nous raconter?
La nuit du 11 au 12 juillet 1992, il faisait très chaud. L'établissement thermal, qui a d'ailleurs été à son apogée, avait fait une belle soirée avec un pianiste. Les gens tardaient à aller se coucher, ils ont attendu. Minuit sonnant quand même, ils vont se coucher. Et puis, vers 1h15, est arrivée donc la catastrophe. Ça a commencé par un grondement. Catastrophe qui avait commencé 11 km plus haut, au glacier de Tête-Rousse. Finalement, donc, c'est une poche d'eau, une poche d'eau intraglaciaire. Il y avait entre 100 et 200 000 mètres cubes d'eau. La calotte glaciaire, d'abord, de dessus, s'est effondrée, créant une dépression qui a fait sauter la calotte latérale. Et ces 200 000 mètres cubes d'eau sont partis, créant dans la vallée de Bionasset une lave torrentielle qui a arraché les rochers, qui a arraché les arbres, qui a arraché la croûte végétale. Et tout ça, c'est arrivé à la fin à Bionnet, à 40 mètres de hauteur. On détruit le village de Bionnet. Saint-Gervais a été sauvé parce que cette lave torrentielle, ensuite, a été s'enfiler dans la gorge du Bon Nant. Mais arrivé ici, à la fin de la gorge, eh bien, c'était encore 30 mètres de haut de cette lave torrentielle qui a détruit le bel établissement thermal qui s'était construit entre les années 1860 et 1890.
Aujourd'hui, et ça on le sait depuis 2009-2010, il y a à nouveau une poche d'eau qui se forme sous ce glacier Tête Rousse. On peut imaginer que le même scénario se reproduise ?
On ne peut pas dire non, mais je dis non quand même. Je dis non quand même parce que, justement, en 2010, des travaux importants ont été faits. Hein. Mais malgré cette première purge, en effet, l'eau se reconstitue en permanence, mais quand même de degrés moindres. Il y a actuellement deux poches, et tant qu'elles ne se soudent pas, il n'y a pas de problème. Si elles se soudent, il y a des problèmes. Mais il faut être vigilant, et je pense que la municipalité et l'État sont très vigilants, et il y a de grands travaux de prévus en conséquence.
Eh ben, merci beaucoup.
Bonne soirée, bon travail. Hein.
Merci, et puis ben, ouais. Bonne continuation à vous, sous Tête Rousse.
Je sais que je risque rien.
Au revoir.
Au revoir.
Nous montons maintenant au hameau de Bionnet, le premier touché lors de la catastrophe de 1892, en voiture avec le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Pélex.
Voilà, là on arrive à l'endroit où la lave est passée. Voilà où sont arrivés où est arrivé le million de mètres cubes d'eau, de glace, de rochers, d'arbres. Et donc là, quand on imagine ça, on voit des rochers, on voit un torrent qui est relativement tranquille. Aujourd'hui, il n'est pas très tranquille parce qu'il a beaucoup plu. Eh bien, imaginons ça avec une trentaine de mètres de hauteur de lave.
Ça veut dire que là, on est comme dans une espèce de gorge. Il y a quelques petits méandres. On serait au-dessus des plus hauts arbres, en fait.
Quasiment, voilà.
Et pour ce qu'on se rende bien compte, ce glacier Tête Rousse, il est quand même très loin d'ici.
Alors, ce n'est qu'une impression, parce qu'en fait, à vol d'oiseau, il est très près. Et c'est parce qu'il est très près que la pente est importante. S'il était très éloigné, on aurait une pente douce, et à ce moment-là, bah, ça s'écoule gentiment, et il y a un peu de terre un peu partout, il n'y a pas de souci. Là, le fait qu'il soit proche, et donc la distance ne permettent pas un écoulement à plat, puisqu'on va de 3002 à 950 mètres à peu près, et bien plus la distance est proche, plus la pente va être importante, et plus la vitesse de l'eau va être importante et de tout ce que l'eau transporte avec elle.
Face au risque de catastrophe, un système d'alerte a été installé. Le glacier est surveillé avec des mesures de résonance magnétique, des relevés météo et plusieurs opérations de pompage ont eu lieu depuis 2010. On retrouve Jean-Marc Pélex dans sa mairie de Saint-Gervais.
Simplement pour montrer un peu la folie humaine et cet orgueil démesuré que nous avons tous, catastrophe 1892, 200 morts, à la partie basse de la commune de Saint-Gervais au Fayet, dont le village n'existait pas à ce moment-là, il n'y avait que les thermes. 8 ans plus tard, à peu près dans les années 1900, le train est arrivé, et comme au Far West, les maisons se sont construites. Alors que le limon sur lequel ces maisons se sont construites contenait encore les cadavres des personnes de la catastrophe. Donc, on ne pensait pas que ça puisse revenir, ou alors c'était divin, c'était une punition ou c'était autre chose. Mais cette folie marchande a fait qu'on a construit un bourg à un endroit où aujourd'hui il y a énormément d'habitants et c'est plus 200 morts qu'on aurait aujourd'hui, c'est 2 à 3 000 morts qu'on pourrait avoir.
Vous dites 2 à 3 000 morts, Jean-Marc Pélex, c'est un chiffre qui est énorme. Est-ce qu'il y a une conscience générale de ce risque ?
Alors, la conscience, elle a existé en 2009 quand on a réaverti la population de ce risque. Il y a eu des gens qui sont partis pendant quelques temps habiter ailleurs, oui. Parce que quand on vous dit, gardez à côté de vous un petit sac avec une bouteille d'eau, une lampe torche, mettez votre téléphone à côté, et puis si vous entendez la sirène, vous réfléchissez pas, vous partez, vous allez sur un point de rassemblement, c'est traumatisant. Et puis petit à petit, comme les gens ont été sécurisés et ont eu confiance dans cette surveillance, eh bien, la quiétude est revenue. Parce que la problématique du cerveau et de l'humain, c'est que si le phénomène qu'on annonce n'arrive pas, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Alors, on est là pour surveiller le glacier et prévenir. On ne pourra pas empêcher un deuxième phénomène, parce qu'un glacier, c'est un être vivant. La glace, elle bouge tout le temps. Donc, on étudie, on surveille, on écoute, et on a un réseau qui nous permet de prévenir et de déclencher des alertes sur des téléphones pour éventuellement évacuer les populations qui sont concernées.
Oui, vous avez tout un système de câbles pour contrôler les mouvements du glacier, des sirènes d'alarme, un plan d'évacuation d'urgence. Si demain, il y a une alerte, comment ça se passe ?
Alors, si demain, il y a une alerte, si des câbles se coupent, hein, s'il y a deux câbles qui se coupent là-haut, il y a des câbles qui ont été mis dans la gorge en dessous du glacier, ça déclenche une alerte téléphonique et on a 15 minutes pour réagir. Et il y a quelques années, il y a eu un orage extraordinaire, les câbles se sont rompus, mais sont rompus parce que la foudre est tombée dessus et le préfet a déclenché le plan Orsec.
Et à ce moment-là, ça a fonctionné ? En 15 minutes, tout le monde avait évacué ?
Alors non, parce que on s'habitue trop au plan et on n'y croit pas et on ne fait pas de répétitions. Et quand on fait des répétitions, eh bien, les gens n'y croyant pas ou se disant « non, ça ne peut pas arriver, c'est, voilà, c'est là-haut, ça me concerne pas », eh bien, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et même les services publics ne savent plus ce qu'il faut faire.
C'est quand même pas très rassurant dans l'éventualité d'une catastrophe avec ce glacier de tête rousse.
Alors, c'est pas très rassurant, mais c'est le même phénomène pour tous les risques et pour l'habitude que l'on a quand on habite à côté d'une usine à risque dans une ville ou dans un endroit où il y a un risque naturel. C'est la même chose. Il y a un moment où on s'habitue, et c'est normal, hein, on s'habitue à penser à autre chose parce que, voilà, c'est pas arrivé, on a d'autres choses. Notre cerveau, aujourd'hui, il est très envahi. Nous, on est quand même un peu plus sérieux. Et effectivement, on domptera pas ce glacier, mais on continue à le surveiller. Mais ça a un coût. Mais c'est une volonté. Et une volonté partagée entre l'État et la commune. On surveille, ça coûte entre 200 et 300 000 euros par an. C'est, jusqu'à maintenant, c'est près de 7 millions d'euros depuis 2009 qui ont été dépensés. L'État nous finance à 80%. Mais par contre, la commune de Saint-Gervais, qui est une petite commune de 5700 habitants, elle paye 20%. Et 20% de 7 millions d'euros, c'est 1,4 million depuis 2009. Donc c'est vraiment aussi une volonté communale de faire en sorte qu'on protège. Mais l'argent public, il est fait pour ça.
On retrouve Marine Denis pour évoquer maintenant les solutions qui sont proposées, les outils aussi juridiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une protection qui existe pour ceux qui seraient obligés de quitter leur logement face à ce dérèglement climatique ?
Alors, historiquement, l'État a la responsabilité de protéger sa population. Dans le préambule de la Constitution de 1946, l'alinéa 12 précise qu'il y a un principe de solidarité nationale. Donc ça, il est mis en vigueur lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Donc c'est l'État qui déclenche des opérations de secours à sa charge. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'on a une absence d'intégration des nouvelles formes de catastrophes naturelles, ou en tout cas, on a du mal à intégrer dans le droit le fait que ces catastrophes naturelles vont devenir beaucoup plus fréquentes. Et ce qui pose problème dans le droit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de disposition vraiment précise pour savoir quelles sont les personnes qui peuvent être indemnisées par les pouvoirs publics.
Quand vous dites catastrophe naturelle, on pense à quelque chose de très brutal, comme une inondation, comme ce qu'on a vu dans la vallée de la Roya. Mais si c'est un processus plus long, comme effectivement une lente augmentation des températures ou l'érosion côtière, comment ça se passe dans ce cas-là ?
Pour ce qui concerne les canicules, on n'a pas vraiment de définition juridique, de cadre juridique. Pour ce qui concerne le grignotement de la mer sur les terres ou sur le littoral, c'est la même chose. Donc on manque, là je pense qu'on peut parler de forme de vide juridique. Après, il ne faut pas chercher uniquement dans le registre du droit des catastrophes naturelles, entre guillemets, mais peut-être aussi regarder ce que peuvent faire les pouvoirs publics en matière d'adaptation.
Qu'est-ce que selon vous on devrait mettre en place en priorité pour pouvoir aider les personnes qui demain vont être obligés de déménager face à des catastrophes naturelles ou des changements climatiques à plus long terme ?
Alors déjà, je pense qu'il y a des premiers dispositifs qui doivent être renforcés en termes d'urbanisme. Aujourd'hui, il faut absolument arrêter de construire sur des zones qui sont soumises à des risques naturels ou à des risques industriels. Voilà, l'administration fait aussi un travail d'identification des territoires les plus vulnérables. Il y a aussi une responsabilité des maires et des promoteurs immobiliers, évidemment, d'arrêter de construire n'importe où pour éviter justement de se retrouver avec des questions d'indemnisation 10 ou 15 ans plus tard. Donc là, il y a ce premier sujet. Après, je pense qu'il faut arriver à mettre en place peut-être des opérations de secours et de solidarité un peu plus efficaces, c'est-à-dire de donner plus de moyens, notamment aux mairies post-catastrophe naturelle, pour ce qu'elles s'organisent, pour qu'elles puissent reloger les gens plus facilement. Et après, ça va paraître très très large, très vaste ce que je dis, mais c'est à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on sait aussi que c'est l'augmentation des émissions qui perturbe les cycles climatiques et qui donc créent des risques de catastrophes naturelles plus importants, et puis des politiques d'adaptation plus ambitieuses, plus exigeantes, et pas uniquement de la construction de digues. L'eau monte, elle montera toujours, donc comment est-ce qu'on envisage peut-être une relocalisation des gens dans l'arrière-pays, peut-être l'abandon aussi d'une certaine forme de tourisme. Moi, j'habite à Grenoble, je vois cette thématique-là sur les montagnes, c'est lunaire de penser que dans 50 ans, on pourra bénéficier de la montagne de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, à mon sens, le premier objectif, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Dérèglement climatique quand il faut partir. C'était un reportage de Faustine Calmel et Yann Frécy, déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Jérôme Chélius a réalisé cette émission, assisté de Martine Messonnier. Mixage, Cédric Châtelus.